En titre de ce 22 août, le président américain Donald Trump présente la nouvelle stratégie de l'armée américaine en Afghanistan. En Australie, les personnes qui reçoivent l'allocation chômage pourraient être testées pour abus de drogue. L'éclipse totale du soleil a traversé les États-Unis d'ouest en est hier et en Australie, la prochaine sera en juillet 2028. Le président américain Donald Trump annonce la nouvelle stratégie pour les États-Unis en Afghanistan. Un retrait rapide d'Afghanistan va créer, selon lui, je cite, un vide qui profiterait aux terroristes.
The consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. 9/11, the worst terrorist attack in our history, was planned and directed from Afghanistan. Because that country was ruled by a government that gave comfort and shelter to terrorists. A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and Al-Qaeda, would instantly fill, just as happened before September 11th.
Le président Donald Trump, il y a en ce moment quelques 8400 soldats américains en Afghanistan. Christophe Paget pour RFI revient sur la présence américaine en Afghanistan depuis 2001.
8 octobre 2001, l'armée américaine lance l'offensive en Afghanistan contre Al-Qaïda et les talibans, d'abord avec son allié britannique, puis avec le soutien d'autres pays. Les talibans sont vite débordés, mais en 2003, lorsque le président américain George Bush retire une partie de ses hommes pour les envoyer en Irak, le Mollah Omar réorganise les talibans. Pour y faire face, les soldats américains et la coalition internationale passent sous le contrôle de l'OTAN, qui prend en charge la sécurité sur tout le territoire afghan. Elle augmente ses troupes jusqu'à atteindre en 2011 140 000 hommes, dont plus de 100 000 américains. 2011, lorsque les forces spéciales américaines tuent Oussama Ben Laden, le responsable des attentats du 11 septembre. L'armée américaine commence alors à se retirer, suivie par les autres pays de la coalition. Mais la guerre continue. Et si la force internationale achève son retrait fin 2014, elle laisse sur place 10 000 soldats, principalement américains, pour une mission de conseil auprès de l'armée afghane. Une armée qui a énormément de mal à faire face seule aux talibans, qui contrôlent une bonne partie du pays, sans parler de l'apparition de l'organisation État islamique. Résultat, la force d'appoint qui devait rapidement se retirer reste sur place. Et si ces soldats américains sont supposés ne pas participer au combat, ils subissent des pertes conséquentes et de plus en plus lourdes.
Christophe Paget pour RFI. La police en Espagne a abattu le chauffeur présumé de la fourgonnette de l'attaque terroriste à Barcelone de jeudi dernier. L'homme de 22 ans a été cerné à Subira, à quelques 50 kilomètres à l'ouest de Barcelone. Écoutez le président de la Catalogne, Charles Puigdemont.
Just before 5 o'clock in the afternoon, the Catalan police has shot dead Yunus Abu Yaqub, driver of the van and direct perpetrator of the attack in Barcelona on Thursday, causing the death of 14 people. My profound thanks to the Catalan police for the very efficient task carried out with utmost discretion and professionalism, in close cooperation and coordination with all the security forces of Catalonia and Spain.
Voilà le président de la Catalogne. Et maintenant le reportage de François Musso pour Radio France Internationale.
Cela a été pleinement confirmé par les Mossos d'Esquadra, les policiers catalans. Younes Abu Yaqub, 22 ans, a été abattu par les forces de l'ordre alors qu'il se trouvait dans la petite localité de Subirats, à l'ouest de Barcelone. Il a été dénoncé par une habitante de la bourgade. Peu avant de mourir, il a crié « Allah Akbar, Allah est grand ». Il portait sur lui une ceinture d'explosifs, mais ceci était faux, comme c'était le cas de ceux des 5 autres terroristes à Cambrils, peu après l'attentat de Barcelone, abattus eux aussi par les policiers catalans alors qu'ils étaient armés de couteaux. Rappelons que Younes Abu Yaqub, après avoir tué 13 personnes à bord de la fourgonnette sur les Ramblas, avait poignardé un Espagnol et lui avait volé sa camionnette avant de prendre la fuite. D'autre part, les policiers ont de sérieux indices, je cite, attestant que l'imam Essati, le cerveau présumé des attentats, a bel et bien été tué suite à l'explosion de la fabrique d'explosifs à Alcanar, au sud de Barcelone. Une fabrique qui, heureusement, avait alors été détruite, car les terroristes avaient l'intention de tuer des centaines et des centaines d'innocents.
François Musso pour RFI. Il y a eu ce rassemblement hier à Barcelone pour les victimes de l'attaque terroriste. Écoutez le témoignage de la journaliste Marina Escudero sur RFI.
Il y a beaucoup de monde, environ 2000 personnes, des musulmans, des catalans, des espagnols, beaucoup d'Européens aussi sont venus manifester ce soir. Le cortège est parti de la place de la Catalogne. L'ambiance est vraiment formidable. De nombreuses personnes sont venues dire avec force qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre le terrorisme et les musulmans. Le terrorisme n'a pas de religion. Les musulmans ne sont pas des terroristes. L'islam, c'est la paix et non pas la guerre. Pas en mon nom et l'islam, c'est la paix. Voilà des slogans qu'on peut entendre. Les organisateurs sont des ONG catalanes et la communauté musulmane. Il y a aussi des imams qui sont venus soutenir la paix et crier « pas en mon nom ». Il y a beaucoup de policiers dans la rue, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur, ni ici, ni dans le reste du monde.
La journaliste Marina Escudero sur RFI. En Australie maintenant, avec les personnes qui reçoivent les allocations chômage qui pourraient être testées pour abus de drogue à partir de l'an prochain. Le gouvernement Turnbull va annoncer que les régions de Canterbury et Bankstown à Sydney seront les premiers à être ciblées pour ces tests. Le ministre des Affaires sociales, Christian Porter, déclare que les tests pour détecter les drogues aideront les demandeurs d'emploi pour mieux sécuriser un emploi.
There are clear problems around us, particularly in the consumption of amphetamines and ice, which are leading to very substantial barriers to employment and causing a whole range of secondary problems in the community. We've seen increase in police reporting of convictions for amphetamine-related offences in some areas of about 27% increase per year.
Le ministre fédéral des Affaires sociales, Cassandra Goldie de ACOS, Australian Council on Social Service, a déclaré sur l'ABC que le gouvernement aurait dû écouter d'abord l'avis des experts de santé.
The health experts uniformly have advised against this kind of policy. The government's own advisory body on drugs advised the government back in 2013 not to go down this path. And again today we've had health experts out expressing serious opposition to this kind of approach.
Cassandra Goldie de ACOS. Une révélation par la presse Fairfax que la députée du Parti libéral, Linda Sudamalis, serait peut-être citoyenne britannique aussi. Elle est née en Australie, mais son père aurait rempli une carte d'immigration en 1966, déclarant que sa fille était britannique. Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, a renoncé la citoyenneté britannique en 2006. Son père est né au nord-est de l'Angleterre. La haute cour va étudier les cas des 7 députés et sénateurs qui ont la double nationalité ce jeudi. L'ancien Premier ministre Tony Abbott rajoute une nouveauté à sa campagne de non pour le mariage pour tous. Il demande aux gens de voter non s'ils ne sont pas satisfaits de la gestion et de la direction du pays. Il semble que, selon les sondages, les gens sont inquiets sur la liberté religieuse, malgré le fait qu'ils soutiennent le mariage pour tous. Des posters ont apparu hier à Melbourne concernant des enfants issus des couples du même sexe. Bill Shorten a critiqué la distribution de ces posters et il réitère que le Labour soutient le mariage pour tous.
I want to be very clear here. We didn't need to have this debate. And everything we've said could happen is beginning to happen. I saw those ridiculous posters in Melbourne. I've seen copies of leaflets. My office gets abusive phone calls from people who've got some really unpleasant views about other Australians. You know, your sexuality is your business. I think you should be allowed to marry the person you love. And we'll just back you. And I think one way or the other it is going to happen, our marriage equality. And I just ask everyone, just look after each other in this.
Voilà le leader de l'opposition fédérale. L'ancien Premier ministre Tony Abbott, comme je le disais, continue sa campagne pour le non pour le mariage pour tous. Hier, il était sur la radio 2GB à Sydney.
This isn't just about marriage. Sure, marriage is the immediate focus, but there are lots and lots of implications here, and we've got to think them through before we take this big leap into what I think is the dark.
Voilà l'ancien Premier ministre Tony Abbott. Une deuxième municipalité de Melbourne, la municipalité de Darebin, a voté en faveur de changer la date des célébrations de Australia Day, y compris des cérémonies pour octroyer aux nouveaux immigrés la citoyenneté australienne. Les autorités libanaises annoncent avoir suivi pendant un an les mouvements des deux frères accusés de vouloir faire exploser un avion entre Sydney et Abu Dhabi. Elles ont aussi travaillé étroitement avec les responsables de la sécurité en Australie. Le ministre libanais de l'Intérieur, Nouhad Machnouk, a déclaré qu'un autre frère des accusés se trouve à Raqqa, en Syrie, et serait le commandant d'un groupe djihadiste de Daesh depuis un an.
The world is not a village. It is now a small neighborhood facing terrorism. For four Lebanese people in Australia to blow up an Emirati flight, the whole world has to be open in fighting terrorism, and coordination has to happen 24 hours a day between all forces to stop these operations as much as possible.
Voilà le ministre libanais de l'Intérieur. La marine militaire américaine arrête ses opérations le temps de revoir les mesures de sécurité après qu'un destroyer ait fait collision avec un tanker libérien au large de Singapour. 10 soldats américains sont portés disparus. Écoutez l'amiral John Richardson.
This is the second collision in three months and the last in a series of incidents in the Pacific Theater. This trend demands more forceful action. As such, I've directed an operational pause be taken in all of our fleets around the world.
L'amiral américain John Richardson. Sept Marines furent tués récemment en juin quand le destroyer USS Fitzgerald a failli couler au large du Japon après avoir heurté un cargo philippin. Plusieurs milliers de Londoniens se sont arrêtés en silence pour écouter les derniers sons de cloche de Big Ben. Les travaux de rénovation commencent pour 4 ans. Explication Marina Daras pour RFI.
Les derniers gongs de Big Ben viennent tout juste de retentir devant une foule de Londoniens et de touristes qui se sont déplacés malgré la pluie menaçante et qui ont applaudi au 12e coup du carillon. Quelques députés se sont également réunis sur Parliament Square au pied de la tour pour montrer leur émotion. Ils se disent traditionnalistes et considèrent la célèbre cloche comme un symbole de démocratie et de force. De force notamment parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Big Ben a survécu aux attaques et aux bombes de l'armée allemande. Mais comme toute machine, l'horloge et le mécanisme doivent être réparés et il est impossible de faire travailler des ouvriers sur un échafaudage de 100 mètres de haut alors que la cloche retentit toutes les 15 minutes. Il n'y avait donc pas d'autre solution que de faire taire Big Ben pendant la durée de ses travaux, c'est-à-dire plus ou moins 4 ans. Il faudra donc attendre 2021 pour que le carillon de Big Ben vienne à nouveau rythmer la vie londonienne.
Marina Daras pour RFI. Jerry Lewis, la légende de la comédie, est mort hier à 91 ans dans sa résidence de Las Vegas. Grégoire Portier pour RFI revient sur le parcours de ce grand comédien.
Jerry Lewis a finalement obtenu un Oscar d'honneur en 2009 en récompense de ses activités humanitaires. Au-delà de ses qualités artistiques, c'est donc bien pour son engagement caritatif qu'il a surtout été reconnu aux États-Unis, y recevant de nombreuses distinctions. Ainsi, s'il n'a même jamais été nommé aux Oscars pour ses prestations de comédien ou de réalisateur, son nom avait carrément été cité pour le prix Nobel de la paix en 1977. Il avait en effet été associé dès le début des années 50 aux toutes premières actions de charité en vue de rassembler des fonds pour le traitement de la dystrophie musculaire, un groupe de myopathie génétique héréditaire. En 1966, Jerry Lewis avait encore renforcé son engagement en donnant son nom et son énergie à un téléthon national rapidement devenu une véritable institution. Chaque année jusque 2010, le jour férié de Labor Day, Jerry Lewis animera ainsi cet événement à la télévision, récoltant 2,5 milliards de dollars au total. Son départ, dont les circonstances sont restées mystérieuses alors qu'il était aussi président de l'association, a précipité le déclin de l'opération, dont la dernière édition s'est tenue en 2014.
Grégoire Portier pour RFI. En mode sport, tennis avec le Bulgare Grigor Dimitrov qui remporte le Masters de Cincinnati contre l'Australien Nick Kyrgios en 2 manches, 6-3 et 7-5. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximale de 19 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 17, Hobart 15, Canberra 16, Sydney 20, Brisbane 26, Cairns 28, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 22 août avant de passer au magazine des sports. Le président américain Donald Trump présente la nouvelle stratégie de l'armée américaine en Afghanistan. En Australie, les personnes qui reçoivent l'allocation chômage pourraient être testées pour abus de drogue. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench